Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne sont disponibles sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibée.blogspot.fr.
A man called Horse. To finally become an Indian warrior, he must perform the sun vow ceremony, perhaps the most electrifying ritual ever seen.
Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée aux dernières sorties Blu-ray et DVD de nos éditeurs préférés. Avec des westerns comme Un homme nommé Cheval d'Eliot Silverstein, un film de 1970 qui est édité par Carlotta Film. Du côté western, il y a également Le Rocher du Diable, un film de 1951 de William Cameron Menzies, l'homme derrière Invaders from Mars. Il y a aussi Les Femmes de Jesse James, un film de 54 signé Donald Barry. Alors, ces deux westerns sont sortis chez Artus Film. Nous parlerons également film noir avec Les Carrefours de la Ville de Ruben Mamoulian et La Deuxième Femme de James V. Kern. Alors, Les Carrefours de la Ville, c'est chez Rimini, La Deuxième Femme, c'est chez Artus Film. On parlera également comédie dramatique avec American Graffiti, film de 73 de George Lucas, Une journée de fou, un film de 89 d'Howard Ziff. Tout ça, c'est sorti chez Rimini. Et on terminera avec un thriller teinté de drame, un film vraiment étrange et passionnant qui s'appelle Sunday in the Country, un film de 1974, un film à voir absolument. Un film de John Trent, sorti chez Artus Film, un vrai faux film de Redneck, et de tout ça on parlera avec grand plaisir. Et pour causer de tous ces sorties Blu-ray et DVD, je suis accompagné de mes fidèles acolytes. Je veux bien sûr parler de Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de culture souterraine et oubliée. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, le fameux Thomas Roland, dit le loup-garou picard qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe, le site cultureaupoint.com, et qui parfois nous fait des infidélités avec Radio Campus Amiens pour son émission À l'écoute du cinéma. Salut Thomas.
Salut Gégé, salut Damien, et bien évidemment, salut à toutes.
Eh bien Thomas, puisque tu pris la parole, je vais te la laisser pour que tu nous parles d'un film qui s'appelle Un homme nommé Cheval, non pas Un homme nommé Loup-garou, ça t'aurait peut-être plus plu. Là, c'est Un homme nommé Cheval, c'est un film d'Eliot Silverstein, c'est un film de 1970, et on peut dire que c'est un western ethno, enfin un film devenu culte avec le temps.
Et oui, qu'est-ce que c'est un film qui dit « Qu'est-ce que ne ferait pas un homme pour une belle femme aux longs cheveux couleur aile de corbeau ?» Eh bien, c'est ce que fait le personnage incarné par Richard Harris dans « Un homme nommé cheval ». Et lui, il est prêt à faire le vœu au soleil pour pouvoir épouser une belle femme comme ça, avec de longs cheveux noirs. Alors, le vœu au soleil, qu'est-ce que c'est, hein ? Le vœu au soleil. Oui, il faut savoir rester debout, immobile, pendant 24 heures. Hein, 24 heures comme ça, sans bouger, sans faillir pendant 24 heures. Il faut quand même le faire. Hein. Et ensuite, on fait une espèce de rituel mystique. Ouh, alors là, ça fait mal. Hein. Là, je ne suis pas sûr que nous, on serait capable de faire ça. On fait des trous dans notre poitrine pour y accrocher des os. Qu'on suspend à des filins et on nous soulève comme ça, on est pendu comme ça pendant quelques instants. Et là, le personnage de Richard Harris a des visions mystiques. Comment ce personnage, John Morgan, un Anglais, un Lord Anglais, se retrouve à faire le vœu au soleil, GG et Damien ? Comment ? Eh bien, il était dans la nature en train de chasser avec des bons hommes pas très sympathiques, hein, qui étaient ses servants, je crois, ou palefreniers, ou je ne sais pas quoi. Mais il tombe sur des Indiens, qui dégomment tout ce petit beau monde, sauf John Morgan qui survit. John Morgan qui est un grand blond, hein, qui détonne un peu avec le reste du pays. Il se fait capturer par ces Indiens, et alors qu'il tente de s'échapper, il tombe à genoux à quatre pattes, et c'est pour ça qu'on l'appelle cheval, et il devient un cheval. Donc il se tape toutes les corvées de la tribu indienne pendant tout le temps qu'il y est, jusqu'à ce qu'il gagne ses galons de devenir un véritable homme, et étant reconnu comme un véritable homme. Et là, il tombe amoureux d'une belle indienne, et ce qui l'amène à avoir une position sociale plus intéressante, et à devenir plus tard, voire chef de la tribu. Mais ça, c'est une autre histoire, GG. Et je ne vais pas tout dévoiler. Alors moi, je trouve que c'est un grand film. Il ne faut pas exagérer. Enfin, je n'exagère pas. C'est un grand film. C'est quand même le réalisateur de The Car que je trouve un film d'épouvante assez moyen. Et là, c'est quand même un grand film. Et j'ai vu un autre réalisateur. C'est quand même... Je trouve que le film, Alors, pendant une grande partie, il est très naturaliste. Hein, il y a une mise en scène très naturaliste avec très peu de musique, un travail sur la photographie que je trouve quand même extraordinaire. Le directeur de la photo, c'est Robert B. Hauser, hein, un directeur de la photo qui vient de la télévision, bizarrement, qui a fait très peu de films de cinéma, surtout dans les fins des années 70, fin des années 60, début des années 70, dont Soldat Bleu de Ralph Nelson, Willard de Daniel Mann, ou Le Mans de Lee Ashkadzin. Voilà, ce sont les films les plus dont on peut retenir de ce directeur de la photo. Et là, il y a une très belle photo, très naturaliste. Et tout d'un coup, le film, lors de cette fameuse séquence du vœu au soleil, le film devient autre chose. Il rentre dans une tente, et là, la photographie, elle est différente. Il y a quelque chose de beaucoup plus fantasmagorique, de plus fantastique, de plus mystique, avec des raies de lumière qui percent la tente. On est vraiment dans un autre univers. Avec tout d'un coup, avec ses visions mystiques qu'il a, là, c'est carrément des plans polarisés où il voit des bisons, il voit des dieux, quoi, en fait. Hein, voilà. Il a des visions un peu de l'avenir aussi, quelque part. Et c'est un film, moi, je pense que c'est un très grand western. Et c'est un très grand western qui parle aussi de l'acceptation de l'autre. Hein. Il y a tout un discours comme ça par rapport à ce personnage qui regardait quand même les Indiens comme des sauvages et qui, finalement, se dit que, qu'on soit Indien ou Anglais ou Américain, finalement, on est tous pareils, quoi.
Je suis d'accord avec toi, Thomas. C'est vraiment un grand film. J'ai été ébahi. Il ose beaucoup. C'est un film très audacieux pour ce qu'il donne, sur beaucoup de plans, même certains effets qui ressortent du film, dont la fameuse scène que tu as décrite. Il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'au final, ça reprend un peu le format classique de finalement cette personne qui voit les Indiens comme des sauvages, qui finalement va intégrer leur milieu, adapter leurs coutumes, et finalement de se rendre compte qu'il avait... pas forcément qu'il avait tort, mais qu'il y avait toute une culture qui se cachait derrière. C'était pas juste de la violence pour de la violence. Et au départ, c'est intéressant parce qu'on nous le présente comme un lord anglais en train de chasser. Et il dit qu'il est un peu désabusé par la situation, lui a toujours tout donné. Là, il se balade, il en profite et tout. Et finalement, Le film, c'est une épreuve initiatique pour lui, car lui qui avait tout se retrouve sans rien et doit à ce moment-là se former et redevenir qui était. Enfin, il se découvre lui-même et finalement, il se forge homme et plus qu'homme, il se forge en tant qu'Indien. Donc moi, j'étais assez surpris au départ, je m'attendais à voir un film de classique western et au final, j'avoue que j'ai été bluffé par l'image, par... les audaces, mais ce film est vraiment très audacieux dans ce qu'il montre.
On est à une période charnière, en fait, hein, du western américain. Alors, certains ne le considèrent pas comme un western, certains le considèrent comme un film qui s'inscrit dans une certaine tradition ethnologique, en fait, du cinéma. Bon, on est quand même dans le western, hein, faut pas non plus extrapoler ou voir des choses qu'Eliot Silverstein n'a pas voulu mettre dans son film. Mais on est vraiment à une période charnière, c'est-à-dire que le western classique dont la mue a commencé aux États-Unis avec L'homme qui tue à Liberty Valance de John Ford, avec Vera Cruz d'Ad Aldrich, voilà, et puis qui a été évidemment complètement bouleversé par l'arrivée du western italien qui s'est traduit jusque dans les débordements de Sam Peckinpah. On pense en particulier à L'Ordre Sauvage, par exemple, hein, parabole sur la guerre du Vietnam. Et on ne peut s'empêcher, effectivement, de voir aussi dans le film d'Eliot Silverstein peut-être aussi une parabole sur l'acceptation de l'autre à une époque où, justement, il y a la guerre du Vietnam, à une époque où il y a encore comme toujours, comme aujourd'hui encore aux États-Unis d'ailleurs, hein, des problèmes de relations entre les communautés. C'est aussi un western qui vient aussi à une époque où alors on se met à montrer une violence plus explicite dans les westerns américains, puisque le sadisme est arrivé par le biais du western italien, par les films de Castellari comme Keoma, par les films qui vient un peu après, je crois, qui est dans la tradition plutôt du western crépusculaire. Mais en tout cas, le cinéma italien a changé la donne, y compris aux États-Unis. On l'a vu aussi avec les films d'Eastwood quand il revient aux États-Unis et qui fait des films aux États-Unis, même Pandele ou Écourt de Ted Post. On sent cette influence du western italien qui arrive aussi aux États-Unis. C'est un échange en fait d'influence, hein, sans cesse. Et c'est un dialogue en fait entre les deux westerns, parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'on retient du western? Les deux grands pays du western, ce sont en termes de cinéma les États-Unis et l'Italie, hein, dans l'histoire du cinéma. Même si je rappelle que en France, on a fait des westerns à bien avant, avec Joe Hamann dans les carrières en Camargue et tout ça, qui tournaient des westerns. Voilà. Mais c'est une partie de l'histoire du cinéma qui est un peu oubliée. Et c'est en même temps, ce film, il sort quasi en même temps. Enfin, c'est dans la foulée. Peut-être qu'il vient juste après ou juste avant, je ne sais plus. Mais il y a Little Big Man d'Arthur Penn. Et il y a ce film dont Thomas a parlé, qui est un peu un film un peu oublié, mais qui est un film incroyable, qui est Soldat Bleu de Ralph Nelson. Un film qui rigole pas du tout. Voilà. Le film d'Arthur Penn est génial aussi. Hein. Et on est vraiment dans cette époque charnière. Et c'est pas étonnant que ce western ait pu être fait à ce moment-là. Parce que c'est vrai que moi, ce qui m'a frappé, et c'est pour ça que je parlais pas mal du western italien, c'est que ce film va inspirer toute une vague de films italiens qui n'ont rien à voir avec le western. Là, je pense par exemple à un film comme Au pays de l'exorcisme, en fait, un film d'Umberto Lenzi qui reprend toute l'histoire à l'identique, sauf que là, ça se passe chez les cannibales. Voilà, c'est un type qui arrive chez les cannibales, qui découvre leur culture, qui tombe amoureux, je crois que c'est Meile qui s'appelle l'actrice, tombe amoureux d'une indigène et puis qui finit par adopter leurs coutumes, où on pend aussi les gens par le biais d'un... Il subit aussi un rite identique, on le pend aussi par les seins avec des crochets, une obsession d'ailleurs de Lenzi, puisqu'il reprendra ça dans Cannibal Ferox avec une très, très jolie actrice qu'il pendra par les seins dans une scène assez, assez dégoûtante, peu ragoûtante, comme souvent chez Lenzi quand il voulait faire des trucs dégueulasses. Il le faisait quand même de manière assez, assez dure. Et après, tu l'as bien rappelé, hein, Damien, c'est un lord, on oublie de dire, c'est un lord déchu aussi. Hein. C'est un lord anglais, mais il est déchu. Il est en exil, quelque part, aux États-Unis. Alors, il est venu chasser parce qu'il s'ennuie. Hein, voilà, il est venu chasser certaines espèces d'animaux parce qu'il s'ennuie. Mais c'est quand même un lord déchu. Donc déjà, dans son propre pays, en fait, c'est un type qui se sent à sa place nulle part et qui va trouver sa place chez les Indiens. Ça, c'est très, très intéressant. C'est-à-dire une des cultures qui lui paraît le plus éloignée de lui-même. Et c'est là qu'il va trouver sa place et bien la trouver. Je voulais juste dire aussi un truc assez rigolo, c'est que, et c'est marrant parce que les journalistes font toujours l'erreur aujourd'hui de dire que le film est interprété entre autres par de vrais Indiens. dont Iron Eyes Cody. Et Iron Eyes Cody, on en avait parlé dans cette émission avec Louis Stéphanoulis, l'auteur d'Une histoire universelle du western en deux volumes. Iron Eyes Cody, il a lui-même longtemps fait courir cette histoire, comme quoi il était réellement indien, tout le monde l'a cru, il jouait tous les rôles d'indien dans tous les westerns américains pendant 40 ans. Mais il était rital, en fait. Il était italien, il n'était pas du tout indien. Et c'est un peu le Bela Lugosi, quoi. Il s'est fait enterrer en indien bientôt. Enfin, voilà, c'est un peu un type un peu étrange. Et j'avais juste envie de dire, pour terminer sur ce film, que le mélange de violence et de psychédélisme, hein, qu'on voit dans cette scène, dans cette cérémonie, a servi de base, pour moi, assez évidente, un film bancal de Yann Kounen qui s'appelle Blueberry, l'expérience interdite, qui est clairement, une version sur une heure et demie de cette scène là qui doit durer un quart d'heure, 20 minutes. Là, c'est une heure et demie chez Blueberry où on s'en prend plein la tête de flash psychédélique. Mais moi, je préfère quand c'est mis en scène par Silverstein, parce que déjà il n'y a pas tout l'aspect des effets numériques et tout. Et puis je terminerai là-dessus, parce que Silverstein, quand même, il affiche, y compris dans The Car d'ailleurs, qui était un film moyen, mais une belle maîtrise du format de l'écran large. Et c'est vraiment, la mise en scène est vraiment très belle. Vous écoutez Culture Prohibée. On va rester dans le western avec Thomas. Thomas qui va nous parler d'un film, d'un type intéressant qui est considéré comme un des plus grands décorateurs de l'histoire du cinéma, d'un des plus grands directeurs artistiques, qui a fait les décors de Autant en emporte le vent, Pour qui sonne le glas, et puis qui a signé quelques classiques de la science-fiction, La vie future en 36, The Invaders from Mars, les envahisseurs de la planète rouge en 53. C'est surtout un maître de la série B, en fait. Et c'est William Cameron Menzies et Artus Film édite, dans sa collection des classiques, un western de William Cameron Menzies qui s'appelle Le Rocher du Diable.
Un western qui cache surtout un mélodrame. C'est un mélodrame, hein, déguisé en western. Alors, on est dans une riche plantation du Sud et la guerre éclate. La guerre éclate, une jeune femme est sur le point de se marier. La guerre éclate et là, elle retrouve, à ce moment-là, elle retrouve un de ses anciens amours. Elle va être confrontée pendant tout le film, entre cet ancien amour et l'homme avec qui elle veut se marier. Mais seulement ces deux hommes-là, ils vont s'engager chacun d'un côté et de l'autre. Alors l'un au sud, l'un au nord, et évidemment ça va faire des étincelles. Alors moi, je trouve que le film, il n'est pas extra, ça se laisse suivre, c'est un gentil western, et il y a surtout une longue séquence. Enfin, le film, c'est surtout un film de siège, parce que l'un des deux personnages, avec son unité, va se retrouver dans ce fameux rocher, à devoir subir les assauts du camp adverse. Alors évidemment, il y a l'un des deux héros, les deux héros se retrouvent chacun dans leur camp, et puis il y a cette femme entre deux, donc c'est un vrai mélodrame que je trouve pas extra, ça se laisse regarder, c'est sympa, mais sans plus, quoi.
Autre western sorti chez Artus Film, alors, un film un peu particulier, moi j'étais surpris de voir ce film édité et sortir récemment donc, chez Artus Film, puisque c'est un film qui est réalisé, interprété par Don Red Barry, Don Barry, mais qui se faisait surnommer Don Red Barry, qui était une vedette de Serial, en particulier dans plein de westerns qui ont été tournés par William Whitney et John English dans les années 40. Je crois que c'était des céréales pour la République. Enfin, voilà, c'était une boîte de production qu'enchaînaient les céréales à l'époque pour abonder les cinémas. Et c'est un film qui s'appelle Les Femmes de Jesse James, un film de 54 que lui-même a voulu un peu comme son baroud d'honneur. Et donc, ce Don Red Barry, eh ben, on le retrouve dans ce film où on voit Jesse James qui a fui le Missouri pour trouver refuge dans une petite ville du Mississippi. Et puis... pendant la messe, avec la complicité de la fille d'un banquier qui a subtilisé la clé du coffre-fort, lui et sa bande décident de dévaliser la banque du coin. Comme ça, ils se disent, c'est sans risque, tout le monde est à l'église. Et puis, ensuite, lui, il se lie d'amitié avec la patronne du saloon local. Il l'aide à se débarrasser d'un partenaire encombrant, un joueur de poker professionnel. Qui voulait prendre la fuite, avec un joli magot. Et ensuite, il porte secours à une chanteuse de cabaret, enlevée par l'un de ses complices. Et en fait, du coup, il se retrouve avec trois amoureuses. Voilà, ce sont elles les femmes de Jesse James, du titre du film, avec trois amoureuses qui vont se disputer les faveurs de Don Red Barry. Bon, il faut bien reconnaître que c'est un western très très mineur, hein, qui est quand même beaucoup moins bien que le William Cameron Menzies. Toujours chez Artus Film, Thomas, un film un peu à la croisée des genres, un film plus intéressant hein, que le western dont on vient de parler à l'instant, qui s'appelle « La deuxième femme », qui est un film de James Vickern, un film de 1950, un film un peu à la croisée des genres entre le fantastique, le mélodrame, le film noir. Un film vraiment singulier quand même, même si pas un grand film, mais un film singulier.
Effectivement, et comme tu l'as dit, un film à la croisée des genres, avec un personnage qui revient dans sa maison natale, où il se passe de choses étranges, où il voit des objets qui ont bougé pendant qu'il n'était pas là. Alors il se demande, il rencontre une jeune femme aussi en même temps, il y a une histoire d'amour qui se crée entre les deux, ce personnage... on apprend que sa femme précédente est morte dans d'étranges circonstances. Enfin, qu'on apprendra plus tard qu'ils ne sont pas si étranges que ça, mais son ex-femme est décédée. Et par rapport à ce décès, il se passe des choses étranges chez lui. Il y a des objets qui bougent pendant qu'il n'est pas là. On empoisonne son chien. Son chien meurt, il meurt empoisonné. Et puis, alors là, carrément, sa maison est incendiée. Et il y a des gens qui soupçonnent que c'est lui-même qui fait ça dans un état second, parce qu'il serait psychotique, quelque chose comme ça. Et donc, cette femme est très, très concernée par cet homme, parce qu'elle est amoureuse de lui. Et elle va essayer de le sauver, de découvrir la vérité. Quel secret cache cet homme pour qu'il... Apparemment, elle pense qu'il ment sur certaines choses et elle va essayer de découvrir son secret. Alors effectivement, parfois, on se dit c'est un peu fantastique. Y a-t-il des apparitions, des fantômes dans l'entourage de cet homme. Et c'est surtout, oui, mais c'est surtout un mélodrame. Voilà. C'est un peu film noir sur les bords, mais c'est surtout un mélodrame. C'est une histoire d'amour avec quand même une fin un peu tirée par les cheveux, hein, un peu, si j'ose dire... un peu tiré par les cheveux, très mélodramatique. Mais c'est un petit film noir qui se laisse suivre, quand même. C'est bien meilleur que Les Femmes de Jesse James. Hein.
Thank you.
Canibé, spéciale sortie Blu-ray et DVD.
Moi, je vais vous causer d'un pur film noir, les amis, un pur film noir et un film intéressant à plus d'un titre, vraiment. D'abord parce que c'est un film totalement oublié, hein, qui s'appelle Les Carrefours de la Ville, City Street, un film de Ruben Mamoulian. Ruben Mamoulian qui est un réalisateur lui aussi plutôt oublié, réalisateur intéressant, mais on n'a jamais vraiment réussi à déterminer les thématiques, ce qui l'intéressait vraiment, ce qui fait qu'il est passé un peu à la trappe. Il a entre autres signé une excellente version du Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et en 1931, quand il fait ce film City Street, Les Carrefours de la Ville, on peut dire que le film noir n'existe pas vraiment, hein, puisque le film noir, historiquement, il vient après. Et là, il pose les bases du film noir. Hein. Dans ce film écrit quand même, excusez du peu, à la base par Dashiell Hammett. Hein, et puis son scénario, après, il est retouché par Oliver Garrett. Et ça donne un film très intéressant, avec une très belle photographie de Lee Garms, qui est un très grand directeur de la photo. Ça se passe durant la Prohibition. Et afin de développer son trafic d'alcool, un gangster n'hésite pas à tuer pour s'approprier des nouvelles brasseries. Et avant de tuer quelqu'un, et il lui dit toujours « sans rancune ». Voilà, il dit sans rancune, c'est jamais lui qui fait le sale boulot, hein. Il dit sans rancune, et puis s'il te dit sans rancune un jour, Thomas, t'es mort. Une demi-heure après, il y a un tueur qui frappe à ta porte, alors dans le film, on voit que bon, il est aussi totalement obsédé par les femmes, voilà. Et en particulier, il va finir par être obsédé par la fille de Pop Cooley. Pop qui est son fidèle et redoutable homme de main, et cette fille s'appelle Nan, et elle est amoureuse du Kid, le Kid qui travaille donc dans un stand de tir forain. Et le Kid, bah, c'est un peu la classe, c'est Gary Cooper, voilà, qui est excellent, hein, dans le rôle, et qui développe une aptitude au tir, qui est un type un peu désinvolte comme ça, et qui développe une aptitude au tir exceptionnelle, en fait c'est un très grand, mais qui veut pas être un gangster, qui veut rien avoir à faire avec ces gens là Et en fait, Nan, qui est interprétée par la très belle Sylvia Sidney, on comprend que les hommes tombent tous amoureux d'elle, hein, et elle lui dit « Mais rejoins les gangsters, c'est des gens qui ne se trahissent pas, c'est des gens qui se serrent les coudes, et tu seras riche. Vu comment tu manies le flingue, tu seras riche. Quoi. C'est pas possible, tu vas finir très riche. » Alors lui, il ne veut pas. Et puis, par un enchaînement de circonstances que je ne vous raconterai pas, elle finit par se retrouver en prison parce qu'elle refuse de parler. Puis là, elle s'aperçoit que les gangsters l'ont pas beaucoup aidée. Et quand elle sort quelques temps après, elle découvre que ben, le Kid, lui, il est devenu un gangster. Et donc, et quand elle sort, eh bien, en plus, le Big Boss découvre qu'elle est une charmante jeune femme et lui, il décide d'en faire sa future femme. Donc évidemment, tout cela ne va pas très bien se passer. Et on est vraiment dans l'ambiance du film noir. Et moi, ce que j'aime, mais voilà, c'est de la mise en scène tout le temps, quoi. J'adore ça, quoi. L'introduction du film, gros plan sur des pneus, mais tu te dis, mais qu'est-ce que transportent les véhicules ? Tac, derrière, tu vois un mec se servir une bière en gros plan, juste un plan serré sur le visage. En plus, c'est du 4 tiers, donc les mecs maîtrisent ça. Moi, j'adore ça, quand le 4 tiers est super bien utilisé. Derrière, tu vois quoi ? Tu vois une usine d'embouteillage de bouteilles de bière. Et tu vois un type qui rachète c'est ce fameux gangster qui rachète la fabrique de bière à un autre voyou, puisqu'on n'a pas le droit de faire de l'alcool, hein, c'est l'époque de la Prohibition. Et puis à la fin, il lui dit sans rancune. Alors évidemment, sans rancune, à ce moment-là du film, tu sais pas que c'est son gimmick avant de d'ordonner la mise à mort de quelqu'un. Et il donne des sous à ce type dans un chapeau. Le chapeau du type, voilà. Et aucune explication. Le plan suivant, alors la caméra se jette sur un gros fût de bière. Et puis, donc, on voit un peu la bière, les soubresauts de la bière, les bulles de la bière. Puis tout à coup, il y a un fondu enchaîné. Et là, c'est de l'eau, c'est réellement de l'eau. En fait, c'est un cours d'eau. Et là, on voit le chapeau, juste le chapeau du mec qui est dans l'eau, comme ça. Donc, tu sais que le mec s'est fait descendre. Et ça démarre comme ça. Et là, je me dis, ah, de la mise en scène, ça fait tellement plaisir. Voilà. C'est pas du chant contre chant, c'est pas quelque chose de fainéant. C'est toujours plaisir de voir de la mise en scène, de voir du cinéma. Et là, tout le film est de cet acabit, en fait, formidablement mise en scène. Le film a surtout un défaut, les acteurs sont très bons, la mise en scène est excellente, le scénar est excellent, c'est les dernières minutes. Parce qu'on sent bien que les producteurs ont voulu imposer un happy end qui est en fait totalement improbable, puisque le film étant, c'est les prémices du film noir, mais comme tout bon film noir, plus le film avance, plus la situation de nos héros se dégrade. Donc ça devrait très mal finir et ça finit bien. Et du coup, la fin tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Malheureusement, c'est le seul défaut du film. Et il y a aussi une scène qui est assez incroyable, puisqu'on est en 1931. Donc la voix off, normalement, je crois, n'a pas encore été utilisée au cinéma. Et le cinéma parlant, c'est pas vieux, quoi. Voilà. Et Sylvia Sidney est dans sa... Sur son lit de tôlarde, elle est allongée en prison. Et là, elle se met à repenser à plein de moments de son existence. Donc on entend ses pensées, on entend les voix aussi, les échanges, des dialogues qu'elle a eus. Des dialogues dont je soupçonne en plus qu'ils ont été réenregistrés parce qu'ils ne me semblent pas être vraiment dans la même ambiance sonore que ce qu'on a entendu au début du film. Et ça donne une scène assez saisissante parce que c'est quelque chose à la fois totalement inédit au cinéma qui donne à ce film un aspect en fin de compte, j'allais dire moderne, mais non, en fin de compte le film n'a pas vieilli quoi. Et je vous dis, le seul défaut du film, ce sont juste ces dernières minutes, mais franchement c'est une belle découverte en ce qui me concerne. C'est une très belle découverte que ce film de Ruben Mamoulian, les Carrefours de la ville, donc un film de 1931 avec Gary Cooper et Sylvia Sidney, d'après une idée originale de Dashiell Hammett. Eh bien, ma culture prohibée, on aime bien passer comme ça, de bondir d'un genre à un autre, passer du coq à l'âne, comme le dit l'expression populaire. Et on va passer du film noir à un peu la comédie dramatique, la chronique douce amère d'une époque. Je veux bien sûr parler d'American Graffiti de George Lucas, un film de 73, donc il fait après THX 138 et avant La Guerre des Étoiles. Un film qui est sorti il y a peu de temps chez Rimini, mon cher Damien.
American Graffiti, c'est le reflet d'une époque, c'est-à-dire le reflet des années 60. On y suit Kurt Anderson, Steven Bolander, Terry Field et John Miller qui viennent de terminer leur année de lycée et pour certains d'entre eux s'apprêtent à rentrer à l'université. À la veille de la séparation, les quatre amis décident de profiter d'une dernière soirée en bonne compagnie et au fil de la nuit, les groupes prennent une nouvelle forme. C'est-à-dire que les quatre amis au départ vont se retrouver tous ensemble et vont être un peu dispatchés. Et à travers American Graffiti, nous suivons l'aventure de ces quatre personnages, chacun dans leur spécialité bien à eux. On a un peu le bad boy, on a celui qui est certain de rentrer à l'université mais qui a quand même une copine qui est présente et qui va devoir lui annoncer qu'ils vont devoir être séparés, celui qui n'a rien qui le rattache si ce n'est l'amour de sa ville qui doit quand même partir à l'université et qui doute, et le dernier un peu timide et sans charisme que tout le monde appelle Frog, donc sous-entendu la grenouille. C'est un film très inégal, je trouve, avec une morale assez particulière, c'est-à-dire que le film est douce, amer, mais ça ne se ressent pas tant que ça dans le film en lui-même. Il y a des moments où on se dit que ça peut mal finir et au final, ça se passe assez bien. La fin est plutôt abrupte là-dessus, vu qu'on a le typique défilé des noms avec ce qu'ils sont devenus et c'est assez sinistre à voir à venir. Fait intéressant, on a Harrison Ford qui fait une apparition... Assez fun. Bon, aujourd'hui, on le reconnaît. À l'époque, personne ne devait en avoir rien à faire. Mais aujourd'hui, c'est drôle de le voir apparaître à l'écran. Et bizarrement, je pense que plus le film vieillira et plus il sera intéressant. Parce que comme je l'ai dit au début, c'est avant tout le reflet d'une époque. Et en fait, le seul phénomène qui reste et qui se continue encore aujourd'hui, enfin, qui peut avoir un impact sur les gens qui vont regarder, je pense que c'est surtout... la jeunesse qui, justement, hésite à faire un choix de savoir s'il doit partir ou non, comment s'orienter. Parce que c'est une peur qui est présente durant tout le film et qui agit sur les différents personnages.
Moi, je voulais rajouter que c'est un film produit par Francis Ford Coppola, en fait. Et Coppola, on voit bien ce qui a pu l'intéresser dans ce scénario. C'est-à-dire c'est ce côté un peu nostalgique, cette glorification de la bagnole, parce que la bagnole aux États-Unis, enfin, ça l'a été aussi en France évidemment, mais c'est hyper important parce qu'il y a Ford, parce qu'il y a toutes ces villes. Bon, on le voit encore dans Gran Torino, par exemple, d'Eastwood. Voilà, l'industrie de la voiture, c'est quelque chose qui a marqué profondément l'histoire américaine. On voit bien ce qui a pu intéresser Coppola là-dedans, dans ce scénar. On retrouve quand même dedans Ron Howard, alias Richie Cunningham. On se croit un peu dans Happy Days, mais une sorte de Happy Days un peu plus sombre. Voilà. Il y a Richard Dreyfuss aussi dans le rôle de Kurt. Il y a Paul LeMatt qui interprète John, et lui, il sera plus tard dans Puppet Master. Ça, c'est une chouette carrière. Et puis surtout, ce qui est intéressant comme chose à savoir sur le film, c'est que Coppola, il remonte le film. Et il impose son final cut à Lucas. On n'en sait pas beaucoup plus. Par contre, on peut supposer que visiblement, il n'était pas très satisfait ou pas complètement satisfait du film. Et je ne sais pas du coup si cette fin un peu plus dure, elle est due à Lucas même, parce que c'était prévu dans le film. Parce que Lucas, quand même, il venait de faire THX 1138, ça rigolait pas, parce que THX 1138, c'est quand même vachement bien. Hein. Moi, je trouve que c'est son meilleur film. En tout cas, c'est son plus sombre. Et je trouve qu'il y a quelque chose de la fin très sombre, tout en contraste d'American Graffiti. Est-ce que c'est l'œuvre de Lucas ? Est-ce que c'est l'œuvre de Coppola ? Allez savoir. En tout cas, effectivement, pour les complétistes sur George Lucas, de toute façon, ils vont forcément vouloir posséder cette édition d'American Graffiti sortie chez Rimini. Écoutez Culture Prohibée. Autre film, autre comédie douce amère, mais alors là pour le coup nettement plus intéressante parce que méconnue et très intéressante, c'est le film d'Howard Ziff, une journée de fou. Mon cher Damien, film de 89, donc film de un peu la fin des idéaux, hein, 89, chute du mur de Berlin, voilà. Et c'est un film quand même qui met en vedette, alors il y a surtout deux qu'on connaît bien, hein, dans des rôles de fou et de fou attachant, c'est Michael Keaton, qui est excellent dans le film, Christopher Lloyd, Peter Boyle, Stephen First, qui sont en gros quatre schizophrènes, mais vraiment, tous les quatre attachants, mais vraiment particuliers, que leur docteur décide d'emmener un match de baseball. Et puis, il se passe quelque chose. Je ne vais pas vous dire quoi. Il se passe quelque chose qui va faire qu'ils vont être, impliqués dans une affaire criminelle. Hein. Il se passe quelque chose. Le docteur disparaît. Les quatre loustiques se retrouvent livrés à eux-mêmes dans la grande ville, Et évidemment, ça va donner lieu à quelques scènes assez étonnantes. Damien, ça a été une découverte pour toi, ce film d'Howard Ziff.
Oui, alors voir Batman, le Batman de Tim Burton et le Doc de Retour vers le futur, ainsi que Jésus tenter de cavaler dans une ville, c'était assez particulier. Donc, comme tu as dit, il y a Michael Keaton qui est présent et qui joue un fou un peu violent. L'autre fou est joué par Christopher Lloyd, qui fait un docteur, enfin qui souffre d'un dédoublement de personnalité qui lui donne l'impression d'être un docteur et qui nettoie un peu tout.
Il est surtout obsédé par l'ordre, par le rangement, par la propreté. C'est ça sa vraie folie, quoi.
On en a un autre qui se prend pour le Christ réincarné, et on a un dernier qui ne parle pas, si ce n'est avec des références de baseball, voire au plus large de références de pub qu'il a pu voir à la télé. Donc ses quatre passions partent en ville, il y a un accident, il se retrouve à vagabonder dans la ville, et c'était une découverte sympathique au départ, je ne voyais pas du tout où le film voulait m'en venir. Il est, je dirais pas qu'il est drôle, parce que je pense que c'est un humour qui aujourd'hui est un peu perdu de sa splendeur. Je trouve long au démarrage, j'ai l'impression qu'il se répète un peu, parce qu'on nous présente de base les personnages et un peu plus tard on les voit vadrouiller en ville, justement, on a un peu cet effet de répétition au niveau des personnages. Bon, c'est pas le cas pour tout le monde, parce que pour certains, on comprend pourquoi ils sont, enfin, on comprend de base, on comprend pourquoi ils sont internés, mais ensuite, on se dit qu'ils ont bien fait d'être internés, et à la fin, ça s'accélère, ça s'améliore grandement, et ça prend une saveur toute particulière que j'ai beaucoup aimée. Et j'aime beaucoup aussi cette caractéristique que Michael Keaton, qui jouera le Batman de Burton, joue quelqu'un de violent, ce qui a souvent été mis en lien avec le personnage de Batman, et que le Doc joue justement, enfin, se retrouve pris dans ce personnage de docteur. Mais le début, oui, je répète un peu ce que je dis, mais le début est lent à se lancer, mais je trouve que c'est la fin est une récompense finalement à tout ça. Et quand je dis, en fait, je dis la fin, mais c'est la deuxième moitié du film, parce que ça arrive assez vite pour le coup.
Je te trouve un peu dur, Damien, avec le film, parce que alors, c'est vrai que le film est un peu trop long. Il dure quasiment deux heures pour une comédie, ce qui pose des problèmes de rythme. Mais par contre, je trouve que le film démarre très fort avec, je ne sais pas si on peut appeler ça un quiproquo, mais disons un jeu sur les apparences au début qui est très très efficace. Ces quatre malades là, ils incarnent vraiment quelque chose de l'histoire de l'Amérique qui est vraiment très intéressant. Moi, je trouve Michael Keaton, c'est l'artiste incompris, c'est un écrivain dépressif et violent qui a des poussées de violence, mais en même temps qui a un charisme dingue. D'ailleurs, il va retrouver son ex, et son ex qui a trouvé l'opulence, qui a trouvé quelque part une sorte de vision fantasmée du bonheur dans une société de consommation typique de celle de l'Amérique de Reagan, où elle a trouvé un homme riche, gentil, voilà, où elle travaille dans un restaurant, elle est serveuse, c'est comme ça qu'il la retrouve, mais en fait elle est toujours amoureuse de lui, quoi, parce que lui c'est la folie, c'est le degré, voilà, c'est le créatif, c'est le mec un peu dingue, c'est le mec capable de tout, quoi, et en fait c'est comme une attirance un peu dangereuse, c'est une relation toxique, quoi. Il y a le Christ, alors que tu dis pas c'est un Christ nudiste aussi, parce qu'il part du principe que le Christ est nu, donc parce qu'il y a quand même une scène hilarante où il se rend dans une messe. Et il monte sur scène, et tous les mecs disent « Oui, mon fils !» Oui, ils sont tous contents. Et là, ils commencent à se foutre à poil. Ils commencent à leur faire un prêche. Au début, ils trouvent tous ça super. Et quand ils commencent à se foutre à poil, « Mais qu'est-ce que c'est que ce mec ?» Bon, c'est assez drôle, mais parce qu'il y a quand même des moments très drôles dans le film. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce personnage campé par Peter Boyle, c'est un ancien publicitaire qui a fait un burn-out. Le burn-out, à l'époque, on n'en parle pas. Enfin, on est en 89, c'est un truc qui n'existe pas, on n'en parle pas. C'est un ancien publicitaire qui a fait un burn-out, qui était le roi de la publicité. On le découvre très vite dans le film. Et donc, du coup, je trouve que ça, c'est intéressant. Quand t'as Christopher Lloyd, qui interprète, en plus qu'un docteur, c'est un obsessionnel compulsif, en fait. Hein, voilà, il est convaincu. Alors, il est convaincu, effectivement, d'être toubib, mais il est aussi complètement obsédé par l'ordre, le rangement, la propreté. Et ça, on découvre très vite pourquoi en trouvant son métier. Moi, je trouve que, que même le personnage qui ne parle qu'en répétant des choses qu'il a entendues à la télé, on arrive même à comprendre à un moment ce qu'il veut dire, parce que les autres arrivent à le comprendre, et ça donne un personnage assez touchant. Moi, ce que je regrette juste, c'est l'intrigue policière, parce que je trouve que l'intrigue policière, en fait, elle n'était pas vraiment utile pour perdre les quatre loustiques dans la ville. Alors évidemment, on est dans la comédie américaine, donc ça va donner du coup lieu à des séquences spectaculaires, avec de l'action, parce qu'à la fin, comme c'est américain, à la fin, il faut que ça explose, quoi, faut que ça pète, faut qu'il y ait de la baston, quoi. Voilà, à la fin, il faut que ce soit spectaculaire. C'est une constante de la comédie américaine, et les meilleures comédies américaines contiennent toutes des scènes d'action mémorables, hein, que ce soit le Very Bad Cops avec Will Ferrell, que ce soit, enfin bon, bref, que ce soit plein de films avec Ben Stiller, ça se termine toujours par des choses assez spectaculaires. Et là, on retrouve ça. Alors, moi, je trouve que c'est un film important, du coup, dans l'histoire de la comédie américaine, dans le sens où c'est un film charnière, c'est un film sur des losers. Moi, j'adore les films sur les losers, et c'est un film qui raconte quelque chose de l'Amérique et de sa situation politique et de ce qu'elle va devenir. Voilà, en ce sens-là, ça m'intéresse, même si je trouve que le film, effectivement, a un petit problème d'écriture, il est un peu trop long, et j'aurais préféré qu'il fasse 20 minutes de moins, il aurait été parfait, mais bon, hein, voilà, on peut pas toujours être parfait. C'est déjà, en tout cas, une bien belle découverte.
Dimanche, tout semble tranquille dans ce petit village inondé de soleil. Mais ce dimanche, certaines personnes s'en souviendront toute leur vie. Il restera marqué dans leur mémoire à jamais.
Je voulais te dire, je suis content de te revoir à la maison. Souvent, tu me rappelles ta mère.
Sunday in the Country, un film de John Trent, un film paru chez Artus Film, qui est dans leur collection Redneck Movie, un film de Redneck, un film de bouseux américain, si vous préférez, voilà. Un film avec Ernest Borgnine qui est extraordinaire, comme d'habitude, pléonasme. Et un film vraiment, Thomas, pour le coup, qui nous emmène là où on ne s'attendait pas du tout. Voilà ce qu'il nous emmène, quoi. Voilà, c'est-à-dire, on se croit qu'on va assister à une sorte de rap and revenge, un film de vengeance, et en fait, on assiste à autre chose.
Bon, la seule chose surprenante, surtout, c'est que c'est un film de John Trent qui s'est échappé de l'entrée de la folie de John Carpenter et qui fait un dimanche à la campagne. Alors, un film de Tavernier quand même, mais bon, la campagne là qui est décrite, c'est pas vraiment celle de Pierre-Auguste Renoir, hein, comme Tavernier voulait le faire dans Un dimanche à la campagne. C'est plutôt celle, effectivement, plutôt du gothique américain. Hein. Et donc, il y a trois bons hommes qui ont braqué une banque dont l'un d'eux a flingué les deux caissiers. Hein. Et ils sont activement recherchés par la police. Et en parallèle, on voit Ernest Borgnine qui est avec sa petite fille, un vrai faux sosie de Sissy Spacek, hein, qui part comme ça le dimanche matin à l'église. Ils vont ensemble. Et ça décrit un petit peu le personnage qui est un grand-père plutôt religieux, mais qui est quand même relativement plutôt cool avec sa petite fille. Hein,
Il tolère qu'elle ait un petit copain. Tout
oui,
ça,
voilà. Il ne correspond pas au cliché du bouseux auquel on pourrait s'attendre, de la part surtout de quelqu'un qui est très à cheval sur la religion, etc. Et donc, ces trois personnages vont se retrouver dans la ferme d'Ernest Borgnine. Bon, seulement, ils se croient tellement malins qu'ils vont tomber sur plus malins qu'eux, quoi. Plus malins et peut-être même plus pervers qu'eux. Parce qu'Ernest Borgnine, on se dit... on le voit préparer le truc, etc. C'est très minutieux. Moi, j'aime beaucoup la mise en scène, très réaliste, très peu de musique. Enfin, il utilise la musique, s'il y a de la musique, mais il l'utilise avec parcimonie. Et son truc, on se dit, lui, il a un truc derrière la tête, quoi. On ne sait pas bien ce qu'il voulait faire, en fait, s'il voulait juste garder l'argent ou pas. Mais les mecs, déjà, ils en flinguent un. Et puis après, les gars, ils les emprisonnent. Et donc, l'histoire, c'est Ernest Borgnine qui emprisonne les malfrats, là. Et ce qui va leur faire subir pendant une après-midi, en fait. Hein. Donc, un dimanche à la campagne. Voilà, c'est pour ceux qui veulent aller à la campagne ce week-end, c'est un peu raté. Hein. On ne vous a pas trop donné envie, là. Donc, c'est un film que, effectivement, moi, je découvre, je n'avais jamais vu. Hein. C'est un très chouette film, effectivement, et qui est plutôt anticlérical, quand même. Ouais, quand même, hein. Et se révèle beaucoup plus ambigu qu'on ne le pourrait le croire sur notamment le personnage d'Ernest Borgnine, parce que le réalisateur, finalement, il a de la compassion pour son personnage. parce que c'est quand même un gars bizarre, hein, un gars très ambigu, hein, mais il a de la compassion pour son personnage. Et la fin est troublante quand même.
Ah, moi je trouve que c'est pour ça que je trouve que ce film est surprenant à plus d'un titre, parce que dans beaucoup de films on aurait eu la jeune fille se fait, puisque dans le cinéma d'exploitation, hein, se fait violer. Le grand-père, croyant, mais aussi, bigot, mais aussi adepte de la gâchette, se venge. Enfin, on aurait pu voir. Et c'est pas ça qui se passe, en fait. Il se passe un truc vraiment étrange. Alors, dans Les Truands, il faut dire, il y a Michael G. Pollard, qui est quand même un putain d'acteur. Voilà. Et il a marqué tout le monde, hein, dans Bonnie and Clyde. Il fait l'un des voyous qui est avec Bonnie and Clyde dans le film d'Arthur Penn, hein, dans la version d'Arthur Penn, celle avec Warren Beatty et Faye Dunaway. Il a aussi un rôle très marquant dans Les Quatre de l'Apocalypse de Lucio Fulci. Et il fait toujours des personnages comme ça, un peu borderline, un peu starbé. Il a l'air vraiment starbé, hein, faut dire les choses. Il a l'air d'à peine jouer, quoi. Il a l'air complètement camé, complètement imprévisible. On ne sait jamais ce qu'il va faire. Il est capable de tout, quoi, en gros. Effectivement, Ernest Borgnine, il sait ce qui se passe. Il y a la radio, il y a tout ça. On sait que les trois malfrats sont dans le coin, tout ça. Il s'en doute un peu. Il connaît ce jeune couple, hein, qui a été agressé, tout ça. Et là, effectivement, on voit préparer des trucs avec ses clébards. On voit préparer des choses. On se dit, mais qu'est-ce qu'il faut ? Il planque des carabines dans la maison à certains endroits clés, tout ça. Et puis, quand les types arrivent, il les laisse faire. Et c'est là que ça devient hyper ambigu. Il les laisse faire, y compris au risque de mettre en danger, en péril, la vie de sa petite fille. Et on comprend qu'il a une relation beaucoup plus ambiguë. Elle est vachement bien d'ailleurs, l'actrice, je crois qu'elle s'appelle Olysse McLaren, elle lui tient la dragée haute, parce que tenir la dragée haute à Borgnine, il faut le faire quand même, hein. Et on comprend que c'est une relation ambiguë, qu'en fait lui il avait une relation beaucoup plus ambiguë que, parce qu'on imagine au début c'est un mec du terroir, donc imagine c'est un type droit dans ses bottes, droit dans sa ferme, droit dans sa vie de tous les jours, qui a jamais maltraité sa femme, qui a jamais maltraité sa petite fille, pétri de valeurs, pétri de et qu'en même temps invivable, hein, ce genre de type c'est complètement invivable, mais en tout cas un type très dur, mais plein de principes. Et en fait, pas tant plein de principes que ça, en tout cas bien tordu dans sa tête, bien pervers et bien loin du justicier auquel tu t'attends quand le film débute. Parce que dans les 10-15 premières minutes, tu te dis ça va être lui le justicier du film. Et puis, on assiste à la dégradation d'une relation entre lui et sa petite fille, qui est assez étonnante. Il y a presque un aspect dramatique dans le film qui n'est pas lié au thriller, qui est lié à la relation qu'il a avec cette petite fille, qui est vraiment étonnant, moi, qui m'a vraiment surpris. Donc je trouve que le film, je suis comme toi, Thomas, mise en scène très sèche, sans fioritures, très efficace, très rigoureuse, hein, et un film vraiment très malsain, qui laisse une sorte d'arrière-goût, d'arrière-goût dans la bouche, assez particulier. Je voulais dire que, franchement, pour moi, dans les films de Redneck, c'est un must, quoi. C'est vraiment un excellent film. D'ailleurs, il y a Maxime Lachaud qui vient le défendre dans les bonus et tout, hein, l'auteur du livre sur le cinéma Redneck, excellent livre paru chez Rouge Profond. Je vous le conseille vivement parce que ça a été pour moi une redécouverte. Je le connaissais du temps de la VHS sous le titre Self-Défense. Mais je l'avais vu à l'époque au milieu d'une foultitude d'autres films. Ça ne m'avait pas traumatisé plus que ça. J'avais trouvé ça bien, mais ça ne m'avait pas marqué. Et en fait, je trouve que c'est vraiment un excellent film.
Et d'après Maxime Lachaud, il manquait quelque chose comme 7 minutes au film. Hein. Le film avait été tronqué. Hein. Mais bon, pour moi, c'est une découverte. Hein. Et c'est un grand film, en tout cas. Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. That didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled in my closet, threw my clothes and found my cleanest dirty shirt. Then I washed my face and combed my hair and stumbled down the stairs to meet the day. I'd smoked my mind the night before with cigarettes and songs I'd been picking.
But I lit my first and watched a small kid playing with a can that he was kicking. Then I walked across the street and caught the Sunday smell of someone's frying chicken. And Lord, it took me back to something that I lost somewhere, somehow along the way. On a Sunday morning sidewalk, I'm wishing, Lord, that I was stoned. 'Cause there's something in a Sunday that makes a body feel alone. And there's nothing short of dying that's half as lonesome as the sound of the sleeping city sidewalk and Sunday morning coming down.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard and The Last But Not The Least. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine. And it echoed through the canyons like a disappearing dreams of yesterday. On a Sunday morning sidewalk, I'm wishing, Lord, that I was stoned. 'Cause there's something in a Sunday that makes a body feel alone. And there's nothing short of dying that's half as lonesome as the sound of the sleeping city sidewalk and Sunday morning coming down.